franceinter.fr.
Et c'est l'étonnant système de navigation solaire à 360 degrés des fourmis qui est aujourd'hui à la une de la science.
Visez l'étoile polaire, depuis la plomb verticale. Ne bougez pas. Une erreur d'un degré et on peut dériver de 600 lieues. Qu'est-ce que vous disiez ?
28.
Parfait. Le 28e parallèle et nous le suivrons jusqu'à ce qu'on touche Terre.
Et vous êtes sûr qu'on trouvera la Terre sur le 28e parallèle ?
Sûr, non.
Voilà Gérard Depardieu dans Christophe Colomb, ce film 1492, à la manière donc des navigateurs, les fourmis se servent également des astres pour retrouver leur chemin dans l'océan de brindilles qui les entoure. Mais comment faire justement lorsque l'on va à reculons, qu'on tourne le dos à la route pour traîner de la nourriture jusqu'à son nid? C'est la question que vous vous êtes posée, Antoine Voustrard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ethnologue, chercheur au CNRS, au Centre de Recherche sur la Cognition Animale à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Oui. Alors, vous vous êtes intéressé dans ces travaux publiés dans Current Biology à l'orientation en marche arrière des fourmis espagnoles. Quel est le nom exact de cette fourmi ?
C'est une fourmi qui s'appelle Cataglyphis velox.
Pourquoi la marche arrière, alors exactement ? Ce que vous aviez compris, parce qu'avant, on connaissait bien évidemment le mécanisme de la marche avant. Dans le sens contraire, c'était plus compliqué ?
Eh bien, en fait, c'était un outil qui nous permettait de se demander un peu comment la fourmi se représente l'espace. Il y avait eu des travaux assez récents qui ont montré que les fourmis étaient capables de rentrer au nid en marche arrière, même après s'être fait déplacer par un expérimenteur. Donc ça montre qu'elles sont capables d'utiliser d'une certaine manière l'information visuelle qu'elles ont apprise des repères terrestres en marche arrière. Et nous, ça nous posait problème parce qu'on avait des raisons de penser que leur mémoire visuelle des repères terrestres étaient égocentrées, c'est-à-dire qu'elles avaient besoin d'aligner leur corps de la même manière à chaque fois pour pouvoir reconnaître la scène visuelle. Si, par exemple, elle a appris la scène visuelle en regardant le nord et se retrouve à faire face à l'ouest, la perception, si vous voulez, de la scène est complètement différente sur leur rétine, donc elle ne devrait pas être capable de reconnaître la scène, ça devrait paraître non familier. Donc on s'est posé cette question, comment elle faisait pour utiliser et naviguer donc en marche arrière?
Moi, j'ai toujours entendu dire que les fourmis, elles utilisaient des signaux chimiques pour s'orienter. Là, vous êtes en train de dire que c'est surtout les yeux, alors?
Bon, pour cette espèce en particulier, c'est clairement des experts de la navigation visuelle. Il faut savoir que la plupart des fourmis utilisent leurs yeux pour naviguer quand ils sont à l'extérieur du nid. Il y a en effet des espèces qui utilisent des pistes chimiques. Les pistes chimiques, c'est surtout pour informer les autres congénères du nid qu'il y a une source de nourriture profitable et il faut arriver vite à plusieurs individus pour l'exploiter. Là, nous, les fourmis qu'on étudie, c'est des fourmis qui vivent dans le désert et leur spécialité écologique, si vous voulez, c'est de sortir que quand il fait très chaud, c'est-à-dire qu'elles vont se nourrir de petits insectes grillés sur le sol et typiquement, ces insectes, ils sont éparpillés tout autour du nid. Donc, c'est pas comme s'ils étaient en gros tas et qu'il fallait dire aux congénères qu'il y a une source profitable. Il vaut mieux que chaque individu parte lui-même de son côté. Et dans ce cas, ils utilisent principalement la vision pour naviguer. Et donc, cette espèce en particulier n'utilise pas les pistes chimiques.
Comment est-ce que vous avez fait pour montrer que c'était le soleil en particulier? Quels sont les exercices que vous avez fait faire à vos fourmis?
Bon, le fait que les fourmis utilisent le soleil et puis d'autres repères célestes, c'est connu depuis longtemps. Nous, on a reproduit ça pour savoir si pendant la marche arrière, elles se fiaient entre autres à ces repères célestes. On a utilisé une très vieille technique, il y a plus de 100 ans, c'est par un Suisse, Félix Sanchi. Très simple, il suffit d'arriver avec un carton pour cacher le soleil, donc projeter de l'ombre sur la fourmi, puis un miroir en face pour réfléchir le soleil, de façon à ce qu'il apparaisse dans le ciel, mais opposé pour la fourmi. Et du coup, si la fourmi change sa trajectoire, c'est qu'elle utilisait entre autres le soleil pour garder son cap.
Est-ce que la nuit, ou quand il y a un nuage, la fourmi trouve quand même son nid?
Ah oui, alors c'est parce qu'elle n'utilise pas seulement la position du soleil. Il y a plein d'autres repères célestes qui sont connus, utilisés par les insectes, notamment la polarisation. Le ciel bleu a un pattern de polarisation qui peut vous servir de compas autant que le soleil. C'est-à-dire que si le soleil est caché, ou même si la plupart du ciel est couvert mais qu'il reste une petite zone de bleu, ça suffit à la fourmi pour son compas.
Est-ce que ça veut dire que cette fourmi n'utilise absolument pas les repères chimiques, du coup, par rapport à d'autres espèces?
Alors, elle va utiliser moins les repères chimiques par rapport à d'autres espèces. Elle va pas laisser elle-même de traces chimiques sur le sol. Par contre, effectivement, l'olfaction joue tout de même un rôle dans la navigation. Ça a été montré. Elle va utiliser l'olfaction, par exemple, pour retrouver des proies. Mm-hmm. Elle va tendre à naviguer à 90 degrés par rapport au vent, ce qui va augmenter les chances de croiser une effluve. Et une fois qu'elle a croisé cet effluve, elle peut remonter l'effluve en utilisant l'olfaction pour localiser la proie. Elle va aussi utiliser l'olfaction, on le sait dans cette espèce, pour l'aider un peu à retrouver son nid exactement. C'est-à-dire que le nid, c'est un peu un trou dans le sol du désert, si vous voulez. Il y a du CO2 qui s'échappe. Et donc, elle peut utiliser aussi le CO2 pour traquer l'entrée. Mais si vous enlevez le CO2, elle est quand même capable d'utiliser la vision. Et pour la route qui est entre le repère du nid et le nid lui-même, donc en général, pour la navigation, c'est clairement les repères visuels qui dominent.
Antoine Vousserard, il y a Sébastien Boller qui a une question pour vous.
Ouais. Quand on parle de navigation visuelle, on pense automatiquement au système de navigation avec la mémoire spatiale, les cellules de lieu, ce qu'on sait sur le fonctionnement du cerveau en navigation chez les vertébrés. Est-ce que les fourmis auraient quelque chose d'analogue? Est-ce qu'elles ont un cerveau déjà?
Alors oui, bien sûr, elles ont un cerveau et effectivement, elles vont construire des représentations assez sophistiquées de l'espace. Et c'est ça qu'a montré notre étude. Elles vont construire une représentation des directions. Donc quand je dis représentation, je ne veux pas dire ce que la fourmi ressent subjectivement. Ça, malheureusement, on ne peut pas y accéder. On est lié à notre représentation de cerveau d'humain, si vous voulez. On ne pourra pas ressentir ce que la fourmi ressent. Mais on peut voir, en traçant un petit peu les filtres sensoriels puis les relais neuronaux dans son cerveau, de quelle manière l'information va se combiner. Et effectivement, là, on voit qu'elle va combiner plusieurs informations, donc céleste, terrestre, probablement aussi de son propre système moteur, en une construction plus sophistiquée que tout ça, un sens des directions, comme si ça représentait, remettait dans le présent, un sens des directions qui, lui, n'est plus dépendant directement de la modalité sensorielle. Elle va pas utiliser le soleil pour s'orienter, elle va pas utiliser les repères terrestres pour s'orienter, mais elle va combiner tout ça pour créer un sens des directions qui, lui, va être utilisé pour s'orienter. Et ça lui permet de garder son cap de façon indépendante de sa propre orientation du corps. Donc on entendait au début avec l'étoile polaire, vous pouvez vous orienter directement avec l'étoile polaire en gardant l'étoile polaire fixée dans le ciel et vous allez aller tout droit. Mais la fourmi est capable de garder son cap, même en faisant des tourbillons sur elle-même, si vous voulez. Elle n'est plus directement dépendante à la perception sensorielle. Elle a construit ce sens qui est plus que tout ça. Ouais.
Et tout ça dans un cerveau qui fait quelle taille alors?
Oui, ça ressemble à quoi un cerveau de fourmi?
Bah, un cerveau de fourmi, ça va dépendre des espèces. Mais c'est plus petit qu'un millimètre cube, donc c'est peut-être un quart de tête d'épingle, ouais.
D'un point de vue du traitement de l'information, est-ce que ce que font les fourmis pourrait être utilisé pour des systèmes de guidage, pour des robots par exemple?
Alors, on peut s'inspirer, c'est vrai qu'il y a d'ailleurs le laboratoire où j'étais avant à Édimbourg, c'est sa spécialité, s'inspirer de nos connaissances sur l'insecte pour construire des robots, peut-être pas plus efficace, mais en tout cas clairement, ou plus efficace dans le sens moins coûteux. Il faut savoir, une fourmi, elle a besoin peut-être d'une goutte de sucre par jour pour faire des choses incroyables. Ouais. La navigation visuelle de la fourmi bat tous nos robots à l'heure actuelle, quoi. Ouais. Et la fourmi n'a pas accès à un GPS ou des lasers et puis des gros systèmes de computation qui sont très énergivores. Donc oui, il y a des concepts à tirer pour améliorer les robots, ça c'est sûr.
Eh bien merci Antoine Vousserard pour ces informations précieuses sur la marche arrière de la fourmi.
Et merci à vous.
Et bonne journée. Merci Axel, à demain.
Merci, à bientôt.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, plus de légumes et de fruits, moins de sucre, beaucoup moins de charcuterie. Voilà un aperçu des nouvelles recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Ainsi, selon l'ANSES, notre consommation de charcuterie est excessive et doit se limiter à 25 grammes par jour, tandis que celle de viande hors volaille ne doit pas excéder 500 grammes par semaine. À nouveau, l'Agence conseille d'augmenter notre consommation de fruits et de légumes, et en particulier de légumineuses comme les lentilles ou les fèves. Cet avis a pour but d'aider à couvrir nos besoins nutritionnels tout en limitant notre exposition à des contaminants et en prévenant les risques de maladies liées à la consommation excessive de certains produits. Le réchauffement climatique qui menace les phytoplanctons davantage qu'on ne le pensait. Une étude internationale publiée dans PNAS s'est intéressée au lien entre les courants marins et les planctons végétaux. Ces organismes sont en effet très dépendants des courants et pour se développer, ils ont besoin de lumière présente à la surface des océans et de nutriments situés eux dans les eaux profondes et que les courants marins apportent à la surface. Or, le réchauffement climatique diminue ces courants, mettant en danger les phytoplanctons qui forment le premier maillon de la chaîne alimentaire des océans. Selon cette étude, une baisse de 15% de la production entraînerait une baisse de 50% des ressources halieutiques dans certaines zones du globe. Et puis des loutres géantes en Chine il y a 6 millions d'années. Leur existence avait été découverte il y a près de 10 ans. Mais ce n'est que cette semaine qu'une équipe sino-américaine de scientifiques a pu précisément les décrire. Pour cela, ils ont reconstruit numériquement leur squelette à partir de plus de 200 fragments fossilisés. Ainsi, les Siamogales mellilutra pesaient une cinquantaine de kilos, soit le double de leur cousine d'aujourd'hui. Elles peuplaient les marais et les zones humides du sud et du centre de la Chine.